ou spirituel, ou littéraire, ou poétique, qui mettrait en avant ces thématiques-là, ce serait peut-être envisageable. Ce serait un chantier à ouvrir, en tout cas.
Oui, et puis on peut passer par les livres, et on doit passer par les livres et se lire des textes. C'est pour ça que je vous avais emmené ces textes-là. Je vous en ai emmené un autre. Vous voulez que je vous lise un autre texte? Pas, j'ai bien envie, mais pas que ce soit hors sujet ou hors contexte. Mais si vous voulez, on peut passer par les textes. Mais simplement, c'est très simple aujourd'hui, l'urgence collective, c'est ouvrir des espaces de dialogue. Ouvrir des espaces de dialogue dans lesquels on fait en sorte que, a priori, on est entre gens différents. On n'est plus dans l'entre-soi. C'est-à-dire que dans l'association qui est la mienne, je crée une association, je rentre dans une association, je suis avec des gens qui ne me ressemblent pas, ou en tout cas dans lesquels on ne se ressemble pas tous. On n'a pas le même âge, on n'appartient pas au même milieu social, on n'a pas forcément la même couleur de peau, on n'a pas forcément la même culture d'origine, on n'a pas forcément les mêmes convictions politiques, on n'a pas forcément les mêmes croyances sur le plan existentiel. Il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a des croyants. Vous voyez ? Je crois que là, il y a une responsabilité collective qui est très, très, très importante. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Alors, je voudrais maintenant...
Vous avez fait parler le petit vieux du Cantal. Vous lui avez fait dire, en parlant des musulmans, qu'eux, au moins, avaient des convictions. Je crois que c'est une grosse erreur de dire ça. Parce que je pense que si les musulmans, de façon générale, ou en tout cas les fous furieux... auxquels on a droit ces derniers temps, s'ils avaient des convictions, ils n'agiraient pas comme ils agissent. Car s'ils avaient des convictions, eh bien, ils ne seraient pas enfermés dans ce dans quoi ils sont enfermés. Parce que ça leur fait beaucoup d'honneur de dire d'eux qu'ils ont des convictions. Merci.
On va prendre plusieurs questions, effectivement, donc vous notez. Monsieur.
Deux questions très courtes. Vous avez parlé du livre de Debré sur la fraternité. Donc Debré nous explique que pour construire une fraternité, il faut trois choses. Il faut un nous, il faut une absence, et grâce à quoi on se réunit, et une enceinte. Et il nous explique que quand il y a une enceinte, il y a forcément des gens qui sont à l'intérieur et forcément des gens qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous ne craignez pas que donc, la fraternité que vous appelez, et que j'appelle aussi bien évidemment, ne crée pas des fraternités au pluriel qui fait que finalement, on se retrouve avec une juxtaposition de fraternités qui nous ramène finalement au même problème que le problème qu'on a maintenant. Mais la première question, la deuxième, elle est très courte. Dans l'islam qui est rigidifié, comme vous avez dit, peut-on le ramollir grâce à un texte qui est un texte révélé et qui fait que les musulmans se réfugient devant le fait que justement ce texte soit révélé.
Alors, on prend les trois questions. D'abord la question de monsieur, oui vous avez tout à fait raison, je ne vois plus le premier monsieur qui intervient. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'anecdote que j'ai mobilisée peut être tout à fait mal interprétée. Vous avez raison. Mal interprétée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout, mais ça va encore mieux en le disant, de faire l'apologie non seulement du djihadisme, de cette monstruosité djihadiste, hein, mais de tous ceux chez qui la vie spirituelle s'est transformée en dogmatisme, en intransigeance et en certitude de posséder la vérité. Bien sûr, il ne s'agissait pas du tout dans mon esprit de faire cette apologie. Simplement, par rapport à ce que vient de dire monsieur à propos de Régis Debré, de remarquer qu'il y a encore des sociétés du monde ou des communautés dans le monde qui ont un « nous », c'est-à-dire qui sont capables de se fédérer ou de se rassembler autour de quelque chose, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Parfois de façon équilibrée, sereine, ouverte, tolérante, et parfois de façon rigidifiée, intolérante et agressive. Bon. Vous avez tout à fait raison, celui qui l'avait dit avant Régis Debré, c'était Cornelius Castoriadis, en 1975, dans un livre très intéressant encore aujourd'hui, qui s'appelle « L'institution imaginaire de la société ». Castoriadis avait dit « Toute société digne de ce nom, c'est une société qui est capable de répondre à la question « Qui sommes-nous ?» Et autour de quoi faisons-nous société? Et ce sont vraiment deux questions qui nous embarrassent beaucoup aujourd'hui. Alors, par rapport à vos deux questions maintenant, ce que vous avez rappelé de Régis Debray pourrait nous faire réfléchir, d'abord, hein, avant même de l'envisager de façon critique. Pour faire société, donc, il nous faut un « nous », il nous faut une absence. Alors, qu'est-ce qu'il appelle une absence? C'est-à-dire, alors on pourrait dire, mais ça sera le dire à la mode un peu religieuse, il nous faut une transcendance, ou il nous faut quelque chose qui soit, entre toutes nos différences, un juge de paix devant lequel on va déposer les armes. Bon. Ou il nous faut, si je le dis à la manière plus, je dirais, plus profane, et en même temps, dans ce sens-là, peut-être un peu plus fade, il nous faut un horizon, un point de fuite. Ou si je le dis d'une façon un petit peu plus précise, il nous faut un idéal collectif. Bon, donc est-ce que nous pourrions en trouver un aujourd'hui? Voilà typiquement le genre de choses que nous devons discuter aujourd'hui collectivement. Et vous avez raison. Ce qui nous guette, si nous, à chaque fois, et ce qui a été d'une certaine façon la malédiction qui a jusque-là été à peu près inévitable dans l'histoire humaine, toute civilisation confondue, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un « nous », on crée un « eux ». En créant une intériorité, on crée une extériorité. En créant de la solidarité et de l'inclusion, on crée de l'exclusion. Il y a ceux qui appartiennent et ceux qui sont en dehors. Voilà. Donc, ça, c'est un défi, je dirais, qui est particulièrement crucial aujourd'hui dans une société qui est une société multiculturelle, dans un monde globalisé ou mondialisé. C'est la possibilité d'inclure dans la fraternité la plus large possible quelque chose qui ne soit plus de telle façon qu'il n'y ait plus d'exclusion, de telle façon qu'il n'y ait plus d'extériorité. Vous voyez ? Ou alors, deuxième hypothèse, créer ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une pluralité de fraternité, mais qui arrive à éviter ce piège de ne pas se replier sur elle-même, mais d'entretenir les unes envers les autres une relation qui soit une relation plus que de tolérance, une relation d'échange, une relation d'enrichissement mutuel, donc une relation ouverte. Et là, on a des questions qui sont des questions de fond pour notre temps. Et vous vous doutez bien que, vu d'ici, c'est-à-dire juste au moment où on commence à se poser ces questions, il est très difficile d'y répondre. Il me semble que ce qui peut être tenté aujourd'hui, déjà à l'échelle, par exemple, d'une société comme la société française, ou pourquoi pas, quelle est la bonne échelle pour réfléchir à ces questions? À l'échelle de la société européenne? Ou alors est-ce que déjà, la bonne échelle, c'est la société monde, la citoyenneté du monde? En tout cas, il va falloir trouver un certain nombre d'échelles qui permettent de ne pas exclure. Regardez déjà la difficulté que nous avons dans notre société française, à la petite échelle de notre société française, à ne pas passer notre temps à nous exclure mutuellement et à faire sécession les uns des autres. Regardez par exemple aujourd'hui en France le problème de tous les entre-soi. Les entre-soi subis, les entre-soi choisis. Les ghettos de riches, les ghettos de pauvres. Bon, alors je pense que par rapport à ça, l'objectif de la fraternité, tout en gardant en tête le danger que vous évoquez, c'est vraiment la nécessité de s'ouvrir le plus possible. Il y avait la deuxième question de monsieur, je suis désolé. Dans le monde musulman, il y a ce texte au départ, le texte coranique, qui est considéré comme une révélation, c'est-à-dire comme de part en part la parole de Dieu. Et à partir de là, le sacré est considéré comme l'intouchable, comme l'indiscutable. Eh bien, c'est un combat à mener encore aujourd'hui par, entre autres par les philosophes, mais en réalité par chaque conscience libre, que de dire « je revendique le droit d'une appropriation du texte qui soit une appropriation personnelle ». Personnelle ne veut pas dire individualiste, hein, c'est-à-dire une appropriation du texte qui me permette d'entretenir à ce texte un rapport libre, un rapport personnel, dans le respect d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qui est très très loin d'être acquis à partir du moment où on considère encore le texte comme, c'est Louis Massignon qui disait ça, qui emploie cette expression, Louis Massignon, grand orientaliste, une dictée surnaturelle. Dans laquelle il est très difficile de faire zéro faute, hein, évidemment.
Je vais faire une remarque pour recentrer la chose dans le temps et l'espace qui nous est imparti à chacun de nous. Et énoncer peut-être la phrase du père du Camus, un homme, ça s'empêche. Et je pense que cette phrase-là redonne la conscience de la vie, donc la conscience de la responsabilité, donc de la liberté et donc de la fraternité possible. Mais au cœur de chacun de nous, je crois qu'il faut que ce soit une somme, la somme de tous les individus qui arrivent à cette conscience de la limite dans le respect de soi et de l'autre. Un homme, ça s'empêche. Pour essayer petit à petit de construire ce monde fraternel.
On va de nouveau réunir des questions. Madame, madame.
Est-ce qu'un point de convergence entre nous les humains, qui serait frère, est-ce que ce ne serait pas la préoccupation de notre bien commun qui est la planète? Donc là, il n'y aurait pas de limite. On est tous dans la même enceinte. On aurait tous à se battre pour que cette enceinte reste viable et vitale.
Troisième question.
Je voudrais vous poser la question du monothéisme. En fait, j'ai trouvé votre critique de la société musulmane remarquable. J'ai trouvé votre critique de la société occidentale, si on peut appeler ça ainsi, remarquable également. Et je pose la question du mono, du un, de l'unique. Est-ce que les monothéismes judaïques, chrétiens, islamiques n'ont pas une tendance fâcheuse, non pas exclure, mais à parfois exclure, mais aussi souvent, surtout pour le christianisme et l'islam, à inclure, je pense aux Indiens d'Amérique, à tous les peuples primitifs, aux peuples des anciens prussiens, et puis le Coran n'est pas tendre avec les polythéistes, et il y a une certaine tolérance pour les peuples du livre, mais que dire de ces gens qui croient dans le multiple? Et pourquoi pas le multiple? Et j'ai beaucoup aimé ce que vient de dire madame, à propos du bien commun. On peut avoir un bien commun et avoir des frontières, et avoir des intérêts communs, une conscience humaine collective, et Dobré, qui l'a été cité, parler de la nécessité d'une frontière. Et je ne pense pas que Dobré pensait à la frontière des nationalismes du 21e siècle, pour ne pas les citer. Donc, pourquoi ne poussez-vous pas à la critique des civilisations citées jusqu'à la critique de l'unique? Je crois que seul Nietzsche, parmi les philosophes, a osé à ce moment.
Je vais répondre aux différentes questions. Monsieur, je vais vous faire un reproche, et vraiment, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas lu mes livres. C'est pas bien. C'est pas bien de parler sans savoir. Donc je vous donne 15 jours. Donc je plaisante parce que... Je plaisante, mais... ne vous inquiétez pas. Parce que c'est un des points centraux de ce sur quoi j'écris, cette critique de l'unique et cette critique du monothéisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, je vais lire d'une façon un peu rapide. Je crois que le problème des monothéismes, c'est d'avoir pris Dieu au sens littéral. Il me semble, ça c'est une thèse que je développe à plusieurs reprises dans les livres, que l'unicité de Dieu dans le monothéisme nous parle en réalité, de façon symbolique, de l'unicité de l'être humain. C'est-à-dire de la différence irréductible entre nous, les êtres humains. Donc en réalité, c'est une unicité qui nous parle d'une multiplicité. Et je crois que les religions monothéistes ne sont pas encore arrivées, de ce point de vue-là, si elles y arrivent un jour, à leur point de maturité. C'est-à-dire le moment où elles comprendront que quand on parle de Dieu, on parle toujours simultanément et peut-être surtout de quelque chose que l'homme peut faire émerger de lui-même. À savoir une qualité d'être, une qualité d'unicité, une qualité de singularité, qui fait que on est à la fois... si vous voulez, plus conscient de soi-même et plus en capacité d'apporter quelque chose à l'autre. Parce que on ne peut apporter quelque chose à l'autre qu'à partir du moment où on a cultivé sa singularité, on a cultivé son unicité. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a une réflexion sur le monothéisme, parce que tant qu'on n'en arrive pas à quelque chose comme ça, ou à des choses de cet ordre-là, il y a une tendance fâcheuse, moi j'aurais dit une tendance fasciste, mais bon, restons sur les tendances fâcheuses. Il y a une tendance fâcheuse à vouloir tout enfermer dans une même doctrine. C'est-à-dire que, je dirais que, il n'y a rien de plus dangereux et de plus puissant que l'idée monothéiste. C'est-à-dire, je crois que c'est à la fois l'idée la plus géniale qui est jamais sortie de l'esprit humain, Et en même temps, probablement l'idée la plus dangereuse, c'est-à-dire l'idée par rapport à laquelle, sans maturité spirituelle, eh bien, nous exposons inévitablement à créer les pires catastrophes, c'est-à-dire à faire en sorte que, inévitablement, siècle après siècle dans l'histoire, le sacré, comme le disait déjà René Girard, soit associé à la violence. Et si on veut trancher le nœud gordien entre la violence et le sacré, je crois qu'il s'agit de réfléchir de façon critique, comme vous le dites, sur l'unicité du divin, ou, parce que nous, les monothéistes, nous n'avons pas le monopole du fâcheux et du fasciste, hein, et bien même du côté polythéiste, à partir du moment où, dans un système religieux quel qu'il soit, l'individu dit « Mon Dieu est le seul, mon Dieu est le meilleur, mon Dieu est l'unique, et ma religion est supérieure à toutes les autres », allô, Houston, on a un problème. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, madame, vous parlez de la planète. Je remonte le courant, comme les saurons. Vous parlez de la planète. Il y a une notion qui a été mobilisée à nouveau, pour la première fois, de façon un peu élargie, par c'était Michel Serres, en 1990. Non, je sais pas, je crois que ça m'est sorti de la tête comme ça. Dans Le Contrat Naturel, il écrit un livre qui s'appelle Le Contrat Naturel, et il dit quelque chose de très beau. Il dit, nous nous conduisons vis-à-vis de la planète comme des parasites, alors que nous devrions nous conduire envers elle comme des symbiotes. Et donc il mobilise, en la dépaysant un peu, la notion qui vient de la biologie, qui est la notion de symbiose. Qu'est-ce que c'est qu'une symbiose? C'est une relation mutuellement profitable entre deux êtres, entre deux organismes. Il n'y en a pas un qui vampirise l'autre, qui lui prend son énergie, qui, comme le disait Heidegger, l'homme va arraisonner la nature, hein, c'est-à-dire l'exténuer véritablement en pillant ses richesses au prix de son intoxication, son empoisonnement, etc., etc., de sa stérilisation. Bon, essayons donc d'être symbiotes. C'est-à-dire, ça renvoie au travail des tisserands dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire recréer le lien avec la nature, pas n'importe quel lien. Un lien nourricier, nourricier pour nous, nourricier pour elle, un lien symbiotique. Mais cette notion de symbiose, on peut la retrouver aussi à propos du lien que nous nourrissons les uns avec les autres. Et si nous essayons à nouveau de nourrir un lien symbiotique les uns avec les autres, au lieu d'être soumis, comme le fait, pardon, c'est une opinion politique, mais je l'assume complètement, au lieu, comme le fait notre système libéral ensauvagé, de nous livrer continuellement les uns et les autres à la servitude de l'argent, à l'exploitation de l'homme par l'homme, et à des rapports de prédation dans lesquels les hommes vont cacher des avoirs pendant que les autres triment toute la sainte journée, ou la journée laïque, comme ils veulent, mais en tout cas toute la journée pour gagner 1200 euros. C'est normal, ça ? Par rapport à ça, si vous voulez, j'aimerais que dans une logique qui soit une logique d'écologie humaine, de l'écologie politique, on cultive aussi bien à nouveau le lien de symbiose avec la nature que le lien de symbiose entre nous, que nous essayons de reconstruire nos relations sociales, nos relations professionnelles et tous nos échanges comme des relations où nous sommes tous gagnants. Et nous avons les moyens aujourd'hui d'être tous gagnants. Comme l'a dit Mohamed Younous a dit « La pauvreté devrait être aujourd'hui un objet du musée, parce que la capacité de l'humanité à produire de la richesse a explosé ». Donc nous aurions tous les moyens, si nous étions moins égoïstes et moins prédateurs et moins individualistes, de faire en sorte que chacun puisse vivre décemment. Vous voyez ? Et la troisième, si vous voulez, application du lien de symbiose, c'est le lien de symbiose avec soi. Je parlais tout à l'heure du rapport entre notre moi social et notre moi profond, ce qu'on a appelé pendant des siècles proprement la vie spirituelle. C'est-à-dire la possibilité pour l'être humain d'entrer en dialogue avec son intériorité la plus profonde par des pratiques qui ne sont pas nécessairement religieuses. Ça peut être la prière, mais ça peut être la méditation, ça peut être le recueillement, ça peut être au contact de l'art, ça peut être dans la nature. Vous voyez ? Tout ce qui nous relie à nous-mêmes. Voilà. Donc je crois que nous avons vraiment là des... Eh bien tiens, voilà la notion. Là, nous avons un bien commun. Voilà. Là, nous avons un bien commun qui est traduisible dans toutes les langues de la Terre. Quand vous parlez à un être humain, s'il est l'héritier de sa culture, vous lui dites « lien à toi-même », il comprend. « Lien à l'autre », lien de symbiose, lien d'inspiration par ton intériorité, il comprend. « Lien de fraternité, d'altruisme avec l'autre », il comprend. lien de respect avec la nature, d'émerveillement face à la nature. Il comprend. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment du bien commun. Et comme le disait Madame, un homme, ça s'empêche. C'est-à-dire que si on se met entre nous à parler de fraternité, c'est pas évident spontanément de parler de fraternité. Donc il faut passer par des expressions comme celle-ci qui nous permettent de comprendre ce qu'est un être humain et ce que peut être concrètement la fraternité. Eh bien, un être humain digne de ce nom, c'est effectivement un être qui s'empêche. Alors, je ne sais pas si le père de Camus l'entendait en ce sens-là, mais qui est capable de se retenir d'eux. Au moment de vouloir s'imposer à l'autre, au moment de faire violence avec l'autre, de faire violence à l'autre, il s'empêche. C'est-à-dire qu'il a nourri cette conscience morale dont parlait Rousseau, Rousseau disait c'est notre instinct divin, vous voyez, cette conscience morale par laquelle il voit que, effectivement, l'autre mérite autant de respect, autant de considération, autant de compassion qu'il voudrait que l'autre en ait pour lui-même. Et à partir de là, il se retient. Il retient son appétit, il retient ce que Freud appelle sa pulsion naturelle à l'agressivité. C'est en ce sens-là qu'il l'entendait.
Oui, oui.
Une toute dernière question, parce que vous avez demandé la parole depuis longtemps, et après il faudra qu'on s'arrête.
Oui, cette société de fraternité que vous appelez tout mon vœu et que nous tous appelons de tout mon vœu, est-ce qu'elle existe déjà quelque part? Est-ce qu'elle a déjà existé? Est-ce qu'elle existe à quelque part sur cette planète?
Qu'on puisse toujours être optimiste et tendre encore davantage vers ça, dire c'est possible.
Non, je vais vous répondre une phrase, je sais plus qui l'a dite, mais quelqu'un disait un jour, l'optimisme est une responsabilité. C'est-à-dire que, quand bien même nous n'aurions pas de modèle ou pas de modèle suffisant, est-ce qu'on a un plan B? Eh oui. Est-ce qu'on a d'autres choix que d'y arriver? Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu dans le passé, Madame Elkoubi en donnait un exemple, hein, quand on parle de même si elle a été humidifiée, mais dans ce cas-là, c'est pas bien dit. C'est l'Atlantide. Voilà. Non, on va pas parler de l'Atlantide ce soir. Bonjour, si vous êtes sage. Mais on peut parler de l'Espagne andalouse, effectivement, c'est-à-dire de sociétés dans lesquelles, ou autour de la Méditerranée, hein, à plusieurs époques, les juifs, les chrétiens, les musulmans ont vécu dans une relation qui était une relation vraiment de fraternité spontanée, c'est-à-dire de voisinage, de partage, de convivialité, etc. Même si, attention, hein, n'idéalisons pas non plus. Hein, bref, on pourrait. Mais quand bien même le passé ne nous donnerait pas d'exemple d'expérience à la hauteur, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix parce que, pour une raison très très simple et qui est nouvelle dans l'histoire humaine, autrefois, chaque civilisation, même s'il y avait entre elles des échanges, et même si elles avaient une certaine diversité interne, chaque civilisation avait son espace géographique. Bon. Et donc, elles pouvaient rester les unes vis-à-vis des autres dans une relation d'extériorité, on va dire, au moins relative. Bon. Aujourd'hui, on est tous les uns sur les autres, les uns avec les autres, tout le temps, au quotidien. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre, par une éducation éthique appropriée, à élargir les frontières de notre fraternité et passer à quelque chose qui, jusque-là, nous paraissait hors de portée, trop inaccessible, trop idéaliste, et que Bergson, par exemple, a appelé l'amour de l'humanité. Il y a un très très beau texte, justement, de Bergson là-dessus, je crois que c'est dans les deux sources de la morale et de la religion, mais je ne suis pas sûr. Et tapez Bergson, amour de l'humanité, vous allez trouver le texte qui est magnifique, mais toujours est-il que, aujourd'hui, regardez, comme par hasard, l'école en France institue à partir de la rentrée 2015, cette année, un nouvel enseignement moral et civique. Pourquoi est-ce qu'on recommence à parler de la morale? Alors certains peuvent dire, oh là là, on va enseigner une morale officielle, un catéchisme républicain, etc. Peut-être qu'on ne va pas le faire correctement, on va essayer de le faire bien, mais c'est un signe du temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui, entre nous, on n'est pas capable de reposer ensemble la question de grandes valeurs éthiques, vous voyez, eh bien, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'on va faire de nos sociétés multiculturelles des univers de plus en plus invivables, où chacun va rester dans le repli identitaire, dans la peur de l'autre, dans le rejet, dans la défiance, etc. Donc on est en quelque sorte sommé, contraint, de reposer entre nous des grandes questions éthiques, des grandes questions spirituelles, parce que nous n'avons pas d'autre choix dans ce monde clos qui commence depuis quelques décennies.
Je voudrais vous remercier. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Je suis vraiment désolée. Je crois que vos applaudissements vont fournir tout simplement la conclusion de cette soirée tout à fait exceptionnelle et extrêmement nourrissante et enrichissant pour nous tous. Merci beaucoup à tous.